Le PDG de Danone, Emmanuel Faber, est l'invité de la matinale d'Europe 1.
Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Les questions de nos auditeurs, ils sont nombreux au 39-21 sur le hashtag Europe 1. On commence avec Olivier ce matin. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Faber.
En direct avec le PDG de Danone. Allez-y.
Vous avez confirmé, Monsieur Faber, auprès de Sonia Mabrouk, la suppression du polystyrène en 2025 dans les pots de yaourt. Et donc ça, c'est une bonne question, c'est une bonne solution. Mais dans le monde d'après, comment les consommateurs vont-ils encore accepter le suremballage des produits alimentaires, essentiellement en base de plastique, comme par exemple vos packs d'eau qui sont filmés pour maintenir les bouteilles entre elles, sur les Actimel, par exemple, le carton qui suremballe les six tissus Actimel. Le plastique étant toujours roi, quels sont vos axes de développement pour avoir un emballage le moins impactant au quotidien et le plus respectueux de l'environnement?
Je crois qu'Olivier est un de vos clients, mais un client citoyen.
Mais c'est très bien, il faut être les deux à la fois. Merci pour votre activisme en tout cas. On a besoin que vous nous aidiez aussi à changer. Et oui, donc sortie du polystyrène en 2025, ça commence par l'Angleterre en 2021, toute la gamme Alpro des produits d'alternatives végétales, y compris en France, en 2021 aussi. Ça commence dès 2020 en France avec lait de vache, dont les peaux sont en PLA, c'est-à-dire que c'est un plastique biosourcé à partir de matières premières, de déchets agricoles. Et c'est là que va, à mon avis, le futur pour, en particulier, les films plastiques. On va pouvoir mettre au point des films plastiques à partir de déchets agricoles. Ensuite, graduellement, les suremballages, il faut les enlever, c'est sûr. Ils assurent de la sécurité pour éviter que les emballages eux-mêmes ne s'abîment. Ils assurent donc de la sécurité alimentaire et ils assurent une forme de praticité. Mais de plus en plus de consommateurs nous le disent. Première des choses qu'on fait, évidemment, en arrivant chez soi, c'est qu'on les enlève, on les met à poubelle et on range les yaourts, les Danone, les Actimel, les Activia dans les frigos. Donc on est en train de travailler aussi à des solutions qui réduisent leur taille, leur poids, le nombre de matières qu'on utilise, et bien entendu ils sont en papier recyclable et en carton recyclable et recyclés dès aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Et c'est pareil d'ailleurs sur le plastique des bouteilles, puisque on va sortir intégralement du plastique vierge pour passer à du plastique recyclé ou du métal, du carton, du papier comme on le fait dans d'autres pays. D'ici, on a démarré en avril 2020 en France, et d'ici 2025 partout en Europe.
Alors je voulais vous poser une question complémentaire par rapport à Olivier, puisque vous parliez du plastique des bouteilles recyclées, recyclables aussi ?
Absolument, oui, bien sûr. C'est entièrement, le PET est dès aujourd'hui déjà entièrement recyclable. Le problème, c'est que sans la consigne, il n'est pas suffisamment recyclé.
Et quand on sort du plastique, on choisit d'autres matériaux qui parfois sont plus lourds, Emmanuel Faber, et donc on émet plus de gaz à effet de serre en les transportant.
C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une seule solution. Elle dépend typiquement des modes de consommation, des taux d'urbanisation des pays, des dispositifs dans lesquels les pays se sont inscrits. Néanmoins, au total, nous avons pour objectif de faire en sorte que d'ici 4 ans, notre dépendance aux énergies fossiles sur nos plastiques, sur nos emballages au total, soit de moins de 25% pour l'ensemble de Danone. Et si je prends par exemple les volumes d'eau que nous vendons dans le monde, en dehors de l'Europe, 60% aujourd'hui sont des volumes qui sont des emballages réutilisés.
Marie nous écrit, merci Olivier pour votre question au 39-21. Marie, sur le hashtag Europe 1, vu la hausse des prix en général, autant consommer local et cuisiner, ce n'est pas perdre du temps, c'est respecter la nature, transformer soi-même, économiser, autant que chacun prenne les choses en main, nous dit Marie. Est-ce qu'il faut relocaliser, repenser la localisation de la production ?
Oui, Marie a raison, la localisation de la production, parce que l'alimentation, mais pour nous c'est pas une nouveauté, c'est le fondement même de notre posture, l'alimentation est un phénomène local, c'est issu d'une culture, d'une tradition, d'une habitude, de diètes qui sont locales. Elles sont locales et entre autres parce qu'elles s'appuient sur une agriculture qui correspond à la capacité locale de l'environnement, des sols, du climat, de ce qui pousse et de ce qui ne pousse pas. On a voulu depuis 70 ans créer des systèmes mondiaux dont on s'aperçoit que leur complexité est d'une part et la focalisation sur un nombre extrêmement limité de plantes. Aujourd'hui, 6 plantes assurent 75% de l'alimentation humaine mondialement. C'est une absurdité totale, c'est un risque colossal. Donc nous militons pour une relocalisation des modèles. Chez Danone, 95% de ce que l'on vend est produit dans le pays dans lequel on le vend. Mais on peut aller plus loin dans le local. Y compris nous, nous le faisons avec des recettes régionales, des assortiments régionaux dans plusieurs pays. Et j'invite évidemment les personnes qui le souhaitent à l'inventer pour elles-mêmes. Donc une seule limite à ça, c'est que la localisation ne veut pas dire autarcie. C'est-à-dire, autant moi je suis favorable au circuit court, je pense qu'on doit prendre même plus de risques, c'est le seul moyen même de créer une résilience des systèmes alimentaires, c'est de prendre des risques alimentaires en réouvrant, je parlais tout à l'heure de semences traditionnelles, potagères, paysannes, etc. De même que des générations avant nous ont poussé pour obtenir le fait que les fromages puissent grandir et s'affiner dans des caves en France autrement que dans des salles blanches aseptisées, parce que c'est pas ça la solution, mais ça suppose, pour pouvoir le faire de façon dans un système qui est très connecté, de le faire à des échelles locales. Donc je suis persuadé que le local est très important et au même moment, il doit rester connecté au moins au niveau européen parce que rien ne peut se faire sans de nouveau la reconnaissance d'une interdépendance assumée. Quand l'agriculture recherche 70 000 personnes pour récolter les asperges et les gariguettes et qu'on dit ben, les saisonniers européens ne pourront pas venir, on recrute des étudiants. C'est très bien parce qu'il se trouve que les étudiants ne sont malheureusement pour eux plus à l'université pendant 2 mois. Mais c'est des solutions dont on voit bien qu'il faut arriver à les élaborer au minimum à l'échelle
européenne. Et à penser sur le long terme aussi, Emmanuel Faber, PDG du groupe Danone, en direct avec nous et avec nos auditeurs au 39-21. Je vois Pascal, Thomas en attente. On revient dans quelques secondes.
Sur Europe 1, vous dialoguez avec le PDG de Danone, Emmanuel Faber, au 39-21.
Pascal est en ligne avec nous dans le Jura ce matin au 39-21. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Faber.
Bonjour.
Je voulais répondre un peu à la question de Mathieu, si on croit au monde d'après. Y croire, c'est peut-être encore un peu du domaine de la foi. Par contre, je pense que c'est tout à fait possible d'un monde vraiment d'après. Mais quand je dis vraiment, c'est insister sur le mot vraiment, parce qu'on parle beaucoup de après, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et ce que je pensais, c'est que surtout, je pense que l'humanité a les moyens intellectuels et matériels pour pouvoir y arriver. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est quel monde on veut exactement, puisque depuis le SDF jusqu'aux financiers plus riches, pour caricaturer ou faire simple, chacun, chaque catégorie sociale n'a pas forcément la même vision de son monde d'après. Et je me demandais s'il y aurait pas idée d'un peu d'harmoniser ou de savoir un peu quel monde d'après on veut vraiment. Et peut-être que Monsieur Faber a une idée à ce sujet.
Merci beaucoup Pascal pour cette question. Une idée, oui, comme vous dites, et puis peut-être des pistes et aucune certitude pour l'instant, mais des convictions assez profondes. Je suis d'abord persuadé que nous devons entrer dans une forme d'économie qui fera plus attention à l'utilisation de nos biens qu'à leur propriété. Je pense que la propriété est d'une grande façon une idée du XXe siècle. Et qu'elle a fonctionné à un moment où on pensait que les ressources étaient infinies. On voit bien qu'elles ne le sont pas. Donc réfléchir en termes d'utilisation, de fonctionnalité, d'utilité, et c'est vrai pour les entreprises d'ailleurs, plus que de propriétaire à proprement parler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la décarbonation. Il faut absolument qu'on sorte de notre dépendance absolument massive à l'égard du carbone. Je l'ai dit, remettre le carbone dans le sol autant que possible et décarboner l'économie. Et donc une croissance qui sera une croissance verte. Et si je devais choisir un troisième mot, je dirais inclusive. Je pense que les inégalités ont atteint des niveaux à l'échelle mondiale qui font que l'économie de marché ne pourra plus fonctionner correctement. Elle ne pourra plus tenir sa fonction de re-répartition des ressources et de génération d'un vivre ensemble si on ne la régule pas pour la rendre plus inclusive qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pascal, merci beaucoup pour cette question au 39-21. Cela dit, il y a des questions sociales aussi évoquées par Pascal. Est-ce que chez Danone, on a prévu de licencier, d'embaucher? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est dans l'avancée de 2020?
Alors, je parlais de 3 temps tout à l'heure. On est dans le premier temps aujourd'hui. On finit le premier temps, qui est le temps du confinement, avec des impacts extrêmement lourds sur le plan économique, et pendant lesquels on a garanti pendant 3 mois tous les salaires et tous les emplois au niveau mondial, ce qui n'a jamais existé une seule fois dans l'histoire de cette entreprise. Mais il faut dire que l'humanité n'a jamais connu une crise aussi violente, forte, universelle que celle que nous traversons aujourd'hui. Il va y avoir un deuxième temps qui va être celui du déconfinement graduel, et dans lequel on va apprendre, en fait, tous ensemble, citoyens, consommateurs, producteurs, travailleurs, actionnaires, etc., à réapprendre des gestes différents. Et c'est là que, pour moi, il est trop tôt pour savoir de quelle façon il va falloir s'adapter pour le plus long terme. Il faut qu'on observe les tendances de consommation, qu'on observe comment les gens retournent ou pas dans les cafés, les restaurants, les hôtels, nos modes de vie, le tourisme, la mobilité, un certain nombre de choses qui vont déterminer les modes de vie. Et à partir de là, on sera en mesure de réfléchir à la façon dont, autour des axes que j'ai évoqués, il faudra qu'on s'adapte nous-mêmes à cette façon. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faudra plus de flexibilité. On a déjà eu recours à beaucoup de flexibilité et je remercie vraiment tous les salariés de Danone, en particulier en France, pour l'incroyable boulot qu'ils ont fait quand il a fallu travailler parfois 6 jours d'affilée pour les forces de vente, des horaires adaptés pour tout le monde, travailler le week-end pour les usines. C'est nécessaire. Mais ça doit venir dans un pacte social qui permette à chacun de trouver sa place.
Emmanuel Faber, un dernier mot avec Thomas qui est au 39-21 avec nous dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour Thomas Langlois. Je vous appelle, Monsieur Faber, j'espère que vous allez bien tout d'abord.
Merci, oui.
Je vous appelais parce que je travaille pour le leader des matières premières naturelles pour la fabrication d'arômes naturels. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas fournisseurs officiels de Danone. Et je voulais savoir quelle démarche il fallait mettre en place pour qu'on renforce notre partenariat ensemble.
Quelle est votre entreprise?
C'est Roberté.
Ah bah oui, c'est une magnifique entreprise.
Négociation en direct sur Europe.
Ouais, je vous laisse. On va se recontacter différemment. Mais merci de m'avoir fait signe ce matin en tout cas. J'espère que vous allez bien aussi.
Merci Thomas.
Très bien. Et on vous invite à Grasse et
très volontiers. Merci.
Merci Thomas.
Bonne journée à vous.
C'est malin. Vous avez raison
à
Thomas.
Bientôt.
Vous avez raison. Il faut oser. Il faut prendre le téléphone. Appeler le 3921. Et merci beaucoup à vous, Emmanuel Faber, président.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
De Danone. Merci pour les réponses à nos auditeurs, des réponses, des questions concrètes évidemment sur la consommation. Et puis, on se projette aussi sur ce fameux monde d'après. Emmanuel Faber était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il est 8h43.